Quoi que. Oui, ça fait beau. Il a travaillé fort, en tout cas. Là. Ça, c'est bon. Je le dis. Tu vois, on a besoin de tout le monde dans l'Église. Hein? Eh bien. Dans un article intitulé Devenir ce que l'on devrait être, John MacArthur a écrit ceci. Il a dit aucune Église ne sera ce qu'elle est supposée être. Ce pourquoi Jésus a prié et ce pourquoi l'Esprit a équipé et doué l'Église jusqu'à ce qu'elle comprenne les dons spirituels. Eh bien, ce matin, on va continuer notre série sur le Saint-Esprit, puis on ne peut pas parler du Saint-Esprit sans parler des dons de l'Esprit, des dons spirituels. Alors, ce matin, on va juste faire un arrêt sur les dons spirituels, on va regarder ça un peu. Pour comprendre les dons spirituels, on a absolument besoin de jeter les bases, de se bâtir une sorte de théologie des dons de l'Esprit. Il faut absolument avoir la base sur laquelle on peut construire. Et c'est ce qu'on veut regarder ce matin, on veut regarder la base. Il y a une des lettres appropriées pour regarder le fondement des dons spirituels, c'est la lettre aux Éphésiens. Donc, on va lire Éphésiens, si vous voulez bien, et on va demander à Dieu de bénir ce temps-là ensemble. Juste avant de lire ce passage. Seigneur notre Dieu, tout d'abord, nous voulons te remercier pour le beau ministère du camp des Bouleaux. On veut te remercier pour tout ce que la famille Rodrigue fait et toutes les équipes. Là-bas, je pense à Stéphane, son épouse et tous ceux qui travaillent au cours de l'été. C'est 2000 campeurs qui vont chaque année et combien tous les bénévoles sont importants. On te prie de continuer à bénir ce camp. Et à continuer de susciter les bénévoles et aussi les fonds pour réaliser cette belle vision alors qu'ils s'investissent à faire avancer ton œuvre. Bénis, Seigneur, le camp des Bouleaux. Et ce matin, on te prie que tu puisses nous guider alors qu'on se penche sur cet aspect tellement important de l'Église. L'Église, c'est ton œuvre. C'est toi qui bâtis ton Église. Alors, Seigneur, ce matin, alors qu'on s'arrête sur les dons spirituels, nous te prions que ton esprit puisse parler à nos cœurs. Aide-nous à comprendre cette bénédiction de Dieu. C'est ta bénédiction, les dons spirituels. Et aide-nous à voir comment nous-mêmes, chacun d'entre nous, nous sommes touchés par des dons spirituels. Au nom de Jésus. Amen. Alors, je vous invite à venir me rejoindre dans la lettre aux Éphésiens, au chapitre 4, si vous voulez bien. On va lire les 13 premiers versets. Donc, Éphésiens 4 et versets 1 à 13. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a emmené des captifs, et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie « il est monté » sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, et les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Alors, qu'est-ce que les dons spirituels? Les dons, on peut regarder plusieurs définitions des dons spirituels. D'ailleurs, on va en regarder. Laissez-moi vous en proposer quelques-unes. Entre autres, dans le livre de théologie systématique, Wayne Grudem définit les dons spirituels de la façon suivante. Il va dire, « On appelle don spirituel toute aptitude vivifiée par le Saint-Esprit et mise au service de l'Église. » De son côté, John MacArthur donne la définition suivante. Il dit « Tout membre de l'Église de Christ a reçu des capacités spirituelles. Il a reçu des dons du Saint-Esprit qui, par la puissance du Saint-Esprit, sont des moyens de faire agir sa parole et sa puissance dans son peuple et dans le monde. Ils constituent la provision surnaturelle de Dieu pour l'édification de l'Église et l'évangélisation du monde. Ils sont les moyens par lesquels les croyants croissent, adorent et témoignent et servent. » Mark Driscoll, dans son livre intitulé « Les doctrines », définit les dons comme ceci. Il dit « Nos talents, dit-il, nous sont donnés par Dieu afin qu'on puisse le servir en faisant le bien pour sa gloire. » Donc, il fait une distinction entre les talents naturels et les dons. Il dit « Les talents nous sont donnés par Dieu. » Les talents naturels, ça vient de Dieu. Afin qu'on puisse le servir en faisant le bien pour sa gloire. Si les non-chrétiens tirent plaisir seulement de leur habileté naturelle, les chrétiens se réjouissent de leur habileté, leur talent, en plus des dons de l'Esprit. Nos talents naturels sont le fruit de la grâce commune, puisque nous avons tous été créés à l'image de Dieu. Nous possédons nos talents, poursuit-il, depuis notre naissance, pour le bien commun, sur le plan naturel. Ils doivent être cultivés pour être bien utilisés, et ils servent à rendre notre monde déchu une demeure un peu plus vivable. Les talents naturels peuvent inclure des compétences dans les relations humaines, la communication, comme l'écriture, la composition musicale et tout ça. On pense aux artistes, aux chanteurs, compositeurs, interprètes. Il existe une panoplie de talents. De leur côté, les dons spirituels sont une grâce spéciale qui vient du Saint-Esprit, qui nous sont donnés à la nouvelle naissance. Le but est d'édifier, de faire progresser l'Évangile et permettre aux chrétiens de vivre passionnément pour Dieu, alors qu'ils sont à son service. René Pache, lui, de son côté, dans son livre, un excellent livre en passant, si vous voulez vous arrêter pour regarder puis aller pousser plus loin dans l'étude des dons spirituels, la personne et l'œuvre du Saint-Esprit. René Pache dit ceci, donne la définition suivante. Il dit, c'est la qualification donnée par l'Esprit à chaque croyant individuel en vue du service dans le corps du corps de Christ, dans le cadre du corps de Christ. Tim Keller donne une autre définition, et vous allez voir que ça se rejoint. On va faire ressortir les similitudes tantôt. Les dons de l'Esprit sont des capacités différentes accordées à chaque croyant par le Saint-Esprit afin de rencontrer des besoins, de telle sorte que cela crée une communauté de personnes qui grandissent pleinement dans le caractère de Jésus-Christ. Alors, toutes ces définitions, dans le fond, se rejoignent. On va en faire sortir trois similitudes, trois aspects qui reviennent. Premièrement, les dons de l'Esprit sont des capacités divines. C'est une énergie divine qui répond à des besoins. En fait, chaque don est une caractéristique du caractère de Jésus-Christ. Mettez tous les dons spirituels ensemble, en la même personne, à leur meilleur, exercez à la perfection et dans la puissance complète du Saint-Esprit, et vous avez Jésus-Christ. Depuis que Jésus est monté au ciel, l'Église est le nouveau corps visible de Jésus-Christ. C'est l'Église. Alors, les dons viennent faire connaître des aspects du caractère de Christ. D'ailleurs, on a 5 listes de dons dans le Nouveau Testament. On ne va pas le regarder chacun, mais voici, juste pour vous montrer qu'il y a 5 listes. Et ce qu'on voit, il y a 2 listes dans Corinthiens, il y a Romains, Éphésiens et Pierre. Et chaque liste est différente. Chaque liste est différente. Et il est clair, comme le souligne Mark Driscoll dans son livre de doctrine, que les listes ne sont pas exhaustives. Ce n'est pas complet. C'est tellement varié, les dons de l'Esprit. C'est unique en chaque chrétien. Mais quand on les compare, quand on compare les dons, on voit que certains groupes qui se ressemblent. On peut les unir dans certains groupes. Par exemple, il va y avoir des groupes de communication. Certains dons ont pour objet de donner une capacité divine de pouvoir communiquer les vérités aux autres. On pense aux évangélistes, à l'enseignement. D'autres ont la capacité divine de porter les fardeaux les uns des autres. On doit tous porter les fardeaux les uns des autres. Mais certains ont cette énergie particulière, une compassion telle qu'elle dépasse la moyenne. Ils ont un fardeau, une compassion de porter les fardeaux les uns pour les autres. Et c'est inspirant de les voir aller. Et on pense évidemment au don de miséricorde, au don de service et l'aide. D'autres, c'est pour d'autres dons vont donner une énergie divine à donner une direction. On pense au don de gouverner, la parole de sagesse aussi. On pense à diriger. Certains dons ont la capacité de soulager les gens lorsqu'ils sont abattus et découragés, alors que d'autres ont cette capacité de nous stimuler, de nous pousser un peu, bien fait, mais de nous encourager. Des fois, lorsqu'on traîne la patte, ils vont avoir juste les paroles appropriées pour nous encourager et nous pousser un peu lorsqu'on est un peu, lorsqu'on a de la misère. D'autres vont venir se coller à nous et nous encourager lorsqu'on se sent soit rejeté, découragé, abattu. Alors, les dons de l'esprit ont cette faculté de répondre à des besoins. Deuxième aspect qu'on retrouve aussi, c'est que les dons de l'esprit sont donnés à chaque croyant. En dépit qu'on est un en Jésus-Christ, les dons de l'esprit créent une grande diversité dans l'Église. Non seulement les dons rendent les chrétiens différents les uns des autres, mais selon les dons d'une église, qu'on va retrouver aussi, tu regardes une église par rapport à une autre, et même les églises sont différentes les unes des autres. Même si la théologie est peut-être la même, on va voir l'aspect de l'église, la personnalité de l'église sera différente les unes des autres, et c'est simplement parce que les dons qui composent cette église sont différents. Et c'est ce qui donne le cachet unique aux églises. Alors, chaque chrétien, chaque disciple de Jésus-Christ reçoit un don. D'ailleurs, c'est ce que dit Éphésiens 4, verset 7. « À chacun de nous, la grâce a été donnée selon les mesures du don de Christ. » C'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a emmené des captifs, il a fait des dons aux hommes. À chacun de nous, chaque personne a reçu un don, une portion du don. Maintenant, Jésus avait tous les dons. Il pouvait communiquer avec clarté, avec sagesse, la vérité de la parole de Dieu. Il pouvait donner une direction, gouverner. Il pouvait porter les fardeaux, il avait la miséricorde, ils avaient tous. Mais nous, on reçoit des dons spirituels, justement afin de nous édifier les uns les autres, nous encourager les uns les autres, et encourager les autres, justement, à grandir dans leur foi. Alors, les dons sont des capacités divines données à chaque croyant. Et pourquoi? Justement pour l'édification de l'Église, pour construire l'Église, bâtir l'Église, pour bâtir notre foi, nous encourager, nous inspirer. Ça, c'est le but des dons. Maintenant, la phrase de Paul est assez longue. Paul nous dit, on a tous un don, ensuite il fait la liste des dons, il va même parler des personnes qui sont données aussi à l'Église. Ici, il parle des personnes dans 1 Corinthiens 12, 13, 14, il va parler d'une liste des dons aussi ailleurs, comme on a vu ce matin dans la liste des dons qu'on vous a présenté. Et ensuite, ce qu'il va faire, c'est qu'il va donner le but des dons. Il va expliquer pourquoi Dieu a choisi souverainement de donner des dons à chaque personne, à chaque croyant. Et il le dit au verset 12. Voici le but d'avoir donné des dons. Il dit, c'est pour le perfectionnement des chrétiens, des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Alors, les ministères qu'on exerce au sein de l'Église, ici à l'Église du Sentier, les ministères qu'on exerce les uns les autres, là, les dons spirituels qu'on va mettre au profit des gens de l'Assemblée, c'est dans le but de construire l'Église, de l'édifier, afin que les croyants de l'Église puissent ressembler davantage, de plus en plus à Jésus-Christ. Alors, tout don est absolument essentiel à l'Église. On a besoin de chaque personne dans l'Église. Chaque personne est différente des autres, mais nécessaire pour que le corps de Christ fonctionne. Et le but ultime de l'exercice des dons, évidemment, c'est comme on l'a dit, c'est la ressemblance de Jésus-Christ. Lorsque les dons spirituels sont bien utilisés, la personne envers qui on exerce un ministère va grandir de plus en plus et va grandir, quand on dit grandir, c'est qu'elle grandit davantage à la ressemblance de Jésus-Christ. Elle ressemble de plus en plus à Jésus-Christ. Et c'est ça le but des dons. Notre modèle, c'est Jésus-Christ. C'est notre modèle par excellence. Et c'est lui qu'on veut ressembler. Et l'exercice des dons au sein de l'Église est d'aider les frères et les sœurs à pouvoir grandir afin de ressembler à Jésus-Christ, notre modèle parfait. D'ailleurs, il y a un jeune homme qui a décrit Jésus-Christ comme ceci, ce modèle parfait que nous avons en Jésus. Voici ce qu'il dit. Il dit, « En dépit d'être accessible aux plus faibles et les gens brisés, il est intrépide, brave, courageux devant les orgueilleux et les gens corrompus. En dépit de sa profonde humanité, sa compassion et sa joie, on ne le voit jamais marabout. Il est tendre sans être faible, fort sans être dur et sévère. Il est humble sans manquer de confiance. Il a des convictions sans être intolérant. Il est enthousiasme sans fanatisme. Il a de la sainteté sans pharisaïsme. Il est passionné sans préjudice. Cet homme n'a jamais fait d'erreur ni fausse note. C'est la vie à son meilleur. Belle définition de Jésus-Christ. Amen. Et voilà ce que les dons sont supposés produire chez les frères et les sœurs de l'Assemblée. C'est ça. Et lorsque les dons sont utilisés dans l'Église, voilà ce qui va tranquillement se produire dans la vie des gens autour de nous autres. Et c'est la raison pour laquelle l'essence des dons de l'Esprit, c'est la bénédiction de Dieu. C'est Dieu. Ce n'est pas tant la technique du don, pas la forme, mais ça relève de la bénédiction de Dieu. C'est une capacité divine. C'est une énergie divine. Aujourd'hui, on met beaucoup d'accent sur la performance à l'emploi. Hein, c'est ça, si tu es performant. Et puis, on peut tomber dans ce risque-là, comme dans l'Église, mais il faut toujours se souvenir que les dons de l'Esprit sont souverainement donnés et l'accent que les Écritures mettent sur les dons n'est pas tant la technique comme cette bénédiction de Dieu. C'est ce qu'on est supposé. Comment on mesure les qualités de dons quand elles s'exercent, quand ils s'exercent? C'est est-ce qu'elles produisent chez les autres de la maturité et le fruit? Alors, les dons de l'Esprit sont une bénédiction de Dieu. On peut parfaire la technique, absolument. Si tu découvres un don de communication, oui, tu vas prendre des cours pour essayer de parfaire cette technique-là, mais il ne faut jamais oublier qu'un don est une bénédiction de Dieu, puis ça relève de la capacité de Dieu. On a rien qu'à penser à D.L. Moody. D.L. Moody est l'exemple parfait pour ça. Voici D.L. Moody, un grand prédicateur du 19e siècle. Tu n'as pas instruit, tu n'as même pas attirant. Sa voix était nasillarde. Quand tu parles comme ça, nasillarde, il prêchait comme ça. Là. D'accord? Il n'y avait vraiment rien pour attirer les foules tellement. Et c'est un article qu'on a lu justement dans le cours de Saint-Bec l'autre jour. Je trouvais ça vraiment intéressant. Un journal a envoyé un journaliste pour aller voir le phénomène de D.L. Moody. Il ne comprenait pas comment ça, des milliers de personnes se rassemblaient. Écoutez, en une seule journée, là, il a fait il appelait ça des croisades de réveil. Là. En une seule journée, il y a plus de 130 000 personnes qui sont réunies pour aller l'entendre prêcher. 130 000 personnes, une journée. De Abraham Lincoln, puis Grant suivait ces événements de réveil. Ça, c'est Dieu. Un journal a envoyé un journaliste pour aller inspecter c'est quoi, quel est le secret de sa puissance à ce gars-là. Il doit avoir quelque chose, il doit avoir un charisme extraordinaire. Vous savez ce qui est arrivé? Il est allé voir, il a suivi dans les mouvements de réveil et tout ça, dans ces soirées spéciales où il y avait des milliers de personnes. Il est revenu au journal puis il dit, « Je vois absolument rien. Absolument rien. » Puis c'est arrivé justement aux oreilles de Moody qui est parti à rire, il a fait un sourire puis il a dit, « Bien, c'est sûr, c'est l'œuvre de Dieu. » Incroyable. On pense qu'il aurait conduit au Seigneur. Et on sait que c'est le Seigneur qui a fait ça. Là. C'est Dieu. Mais on pense. Il y a des gens qui pensent qu'il y a 1 million de personnes seraient venues au Seigneur dans le temps de Maudit avec son ministère. C'est phénoménal. Il a parlé à plus de 100 millions de personnes en plus et a conduit des centaines et des centaines de milliers de personnes au Seigneur. Comment expliquer ça? La bénédiction de Dieu. C'est une énergie divine. C'est une capacité divine. Maintenant, on pense à l'apôtre Paul, à l'apôtre Pierre. Paul était très instruit, mais Pierre ne l'était pas. Pierre était dans un métier de pêcheur et c'était pas un homme instruit. D'ailleurs, comme la plupart des gens à l'époque du Nouveau Testament, dans l'Antiquité, il y avait juste, on pense, à peu près 5% à 20% des gens qui savaient lire. Imaginez, on pense à 80 à 95% des gens ne savaient pas lire. D'ailleurs, c'est pour ça que quand tu étudies le Nouveau Testament, tu regardes la forme des lettres, c'est des discours. Ce n'est pas des lettres qu'on appelle épistolaires, c'est des discours. Et Pierre va se lever, lui, qui n'avait pas beaucoup d'instructions, va se lever dans Acte 2, va commencer à prêcher. Et 3000 personnes vont venir au Seigneur Jésus-Christ. C'est quoi? C'est Dieu, c'est une capacité divine, ça, pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Alors, les dons de l'Esprit sont des capacités divines, différentes, accordée à chaque croyant par le Saint-Esprit afin d'édifier les membres de l'Église et à les aider à grandir pleinement dans le caractère de Christ. Alors ça, c'est la théologie des dons de l'Esprit. Okay? Très important, on a besoin d'être clair dans notre théologie, c'est la base, la théologie des dons de l'Esprit, c'est ça. Maintenant, c'est quoi, qu'est-ce que ça veut dire pour nous autres, ça? Quelle implication que ça a? Laissez-moi vous en proposer quelques-unes. Premièrement, il y a 0% de chômage dans l'Église. Vrai? Il n'y a pas de chômage, zéro. Le taux de chômage dans l'Église de Jésus-Christ, c'est zéro. À partir du moment qu'on accepte, que Dieu a fait un don de l'Esprit, a donné une capacité divine à chaque croyant, ça veut dire toi. Ben, amen. Et si toi, tu as reçu un don de l'Esprit, c'est-à-dire une capacité divine qui t'a été accordée souverainement pour que tu puisses accomplir une tâche et t'investir dans le royaume de Dieu pour faire avancer l'œuvre, ça veut dire que j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Nous avons tous besoin de toi parce que toi, tu vas le faire avec une capacité divine que moi, je ne serais pas capable de faire. J'ai absolument besoin de toi. Que tu t'investisses dans ma vie et qu'on s'investisse mutuellement les uns dans les autres. C'est ça que ça veut dire. Chaque personne, chaque croyant a reçu un don de l'Esprit. D'accord? Pas de chômage au sein de l'Église. Éphésiens 2:10 le dit. Il dit, nous sommes son ouvrage, l'ouvrage de Dieu, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ça parle de toi et de moi, ça, ici. Chacun d'entre nous. Tu as été fait. Tu as été créé avec des capacités uniques. Tu as reçu des dons spirituels. Uniques. Et si tu les mets au service des autres, tu vas aider l'Église à grandir de plus en plus selon le caractère de Jésus-Christ. Il y a des gens qui ont besoin d'être atteints. Et Dieu t'a équipé, toi, pour pouvoir les atteindre. Et Dieu veut accomplir certaines œuvres dans ce monde et il t'a préparé à le faire. Tu es la meilleure personne pour les accomplir. Dieu ne gaspille personne. Il n'y a aucun chrétien qui devrait se sentir laissé pour compte dans l'Église. Absolument pas. Tout le monde est important dans l'Église. Tu es une ressource que Dieu a préparée pour que tu t'investisses au sein de cette Église. Ça a une deuxième implication, ça. C'est qu'il va y avoir des tensions dans l'Église. C'est tout à fait normal. Ben oui, parce que si toi, tu as reçu un don qui est différent du mien, moi, je vais pousser, je vais tirer la couverture sur mon bord. Je vais avoir à cœur un domaine dans l'Église. On devrait faire ça. Moi, pour moi, compte tenu que c'est un don que Dieu m'a donné, c'est la priorité numéro un. Mais toi, ta priorité numéro un, c'est pas ça. Dieu t'a donné un autre don. Il t'a fait voir des choses que moi, je ne vois pas ou je vois moins. Là, tu vas venir et tu dis, non, on devrait faire ça. Ben non, il me semble qu'on devrait faire ça. Ben non, on devrait faire ça. Voyons, c'est important. Ça me fait penser aux jeunes prédicateurs, aux jeunes pasteurs qui ont commencé dans sa première église. Tu es allé chercher sa formation, tu es allé étudier, puis ça, puis là, il commence. Sa première église, il a 24 ans. Il rentre dans l'église, il commence, il prêche son premier sermon. Le lendemain, il reçoit la visite d'un chrétien de l'église. Il rentre dans l'église, puis il le regarde, puis il dit, oh, M. Pasteur, il dit, regardez dehors dans les fenêtres, là, voyez-vous les roulottes à l'extérieur? Regardez les roulottes, là. Il dit, oui. C'est un quartier très pauvre. L'église se trouvait dans un quartier pauvre. Puis il dit, vous savez ce qui se passe? Vous savez pourquoi qu'on ne rejoint pas? Vous savez c'est quoi le problème dans l'église ici, là? Lui, il vient d'arriver, là. Il dit, non, c'est quoi? Il dit, le problème ici, là, c'est qu'on n'a pas à cœur les gens d'évangélisation. On ne croit pas à l'évangélisation, dit-il. Il dit, regarde les personnes. Avez-vous remarqué que les roulottes ici, il n'y a pas personne de ce quartier-là, des roulottes, des gens pauvres, là, qui viennent dans notre église? C'est ça le problème dans notre église. On n'a pas à cœur des gens de gagner des âmes. Ah, OK. Le lendemain, il y a un autre chrétien de la même église qui l'a entendu prêcher, il rentre dans l'église. Il rentre et il dit, bonjour, M. Pasteur. Il dit, voyez-vous les roulottes à l'extérieur? Savez-vous pourquoi les gens, là, ne viennent pas dans l'église? Non. Pourquoi? Il dit, parce qu'on n'a pas de compassion ici dans l'église. Pas de compassion. On devrait avoir un ministère d'entraide. Moi, je ne comprends pas ça. C'est pour ça que ces gens-là ne sont pas dans l'église. Ah! Le lendemain, un autre chrétien de l'église, qui était là le dimanche, il rentre dans l'église, il s'en vient voir le pasteur. Il dit, Monsieur le pasteur, il dit, voyez-vous les roulottes à l'extérieur? Le pasteur a commencé à les voir. Il dit, oui, oui, je les vois pas mal. Il dit, oui, effectivement. Il dit, savez-vous pourquoi les gens là-bas sont pas ici dans l'église? Non, pourquoi? Il dit, parce que ça prendrait quelqu'un là qui est capable d'organiser quelque chose. Quelqu'un qui organiserait un projet pour qu'on puisse être capable de rentrer dans le projet, puis d'aller dans ce projet-là de roulotte, là, pour aller gagner les gens. Là. Ça prend quelqu'un là qui a des talents de diriger, puis parce qu'on n'est pas organisé ici à l'église. C'est ça le problème dans l'église, c'est, on n'est pas organisé, on est mal organisé. Maintenant, qui a raison dans les trois? Les trois. Maintenant, est-ce que ça va créer une certaine tension dans l'église, ça? C'est sûr. Mais les trois ont raison. Puis c'est correct. Dieu a fait l'église comme ça. Moi, il y a des gens qui viennent me voir des fois, puis ils me partagent leur passion. Puis ils disent, ah, c'est ça qu'on devrait faire. On devrait faire ça, ça, ça. Puis ils me racontent ça. Puis, hey, c'est Dieu, ça. Dieu qui donne des dons différents à chaque personne et fait voir des choses, mon ami, que moi, j'avais peut-être jamais vues. J'ai peut-être même pas pensé à ça. Et c'est ça, l'Église. Le Seigneur a fait son Église comme ça pour bâtir son Église. Seul Jésus voyait tous les besoins. Mais la façon qu'il travaille maintenant, qu'il est au ciel, c'est qu'il donne des dons différents à différents chrétiens pour justement qu'on puisse s'investir, qu'on puisse ensemble s'encourager, s'inspirer à faire le bien et qu'on grandisse dans le Seigneur. Et c'est beau. Donc, soyez pas surpris. On s'attend, soyez pas surpris. Il va y avoir de la tension dans l'Église. Une certaine tension. Ne soyez pas surpris du tout. Maintenant, à chaque personne, à chacun d'entre nous, et ça me conduit justement à la troisième implication, une autre implication, c'est qu'on va agir avec humilité. On ne sera pas jaloux, puis on va agir avec humilité parce que je réalise que je n'ai pas tous les dons et peut-être que Dieu a donné un don à une personne qui lui fait voir des choses que moi, je ne vois pas. Et on est en train de se bâtir mutuellement. Et c'est beau, c'est la diversité. C'est la diversité. C'est tout à fait beau. C'est comme cette histoire-là de quatre chrétiens qui se trouvent dans un restaurant. Puis la serveuse arrive avec tous les plats, puis elle s'en vient, puis bon, elle s'accroche sur quelque chose en chemin, puis elle échappe tous les plats à terre. Le chrétien qui avait le don de service, tout de suite, s'est projeté vers elle, s'est penché, puis commence à l'aider. L'autre, il avait un don de compassion, alors il s'est penché, il est parti à courir, puis il dit, « Es-tu correct? Es-tu correct? Ça va bien? C'est correct? » L'autre, il avait un don de docteur, fait que lui, il disait, « Ah, moi, je le savais, je l'ai vu venir. Oui, oui, je le savais. » L'autre, il avait un don de libéralité, puis il dit, « Écoutez, c'est pas grave, les amis, apporte d'autres assiettes, je paye pas tout le monde. » C'est une caricature. Mais c'est ça la diversité, la beauté de l'Église de Jésus-Christ. C'est ça, c'est beau, c'est correct ça. Puis ça va arriver que des gens sont tellement passionnés d'une chose que sont sur le bord là, de juste traverser, puis ça devient presque dérangeant, là, puis très dérangeant même, puis même beaucoup dérangeant, c'est parce qu'ils sont passionnés. Ça va arriver. Et si Dieu te met à cœur quelque chose, un ministère, une vision que tu as dans ton cœur, probablement que c'est Dieu qui t'a donné un don particulier qui te fait voir ce besoin-là, et Dieu t'appelle, t'a équipé à le faire. Nous, on va t'entourer, on va t'appuyer, on va te soutenir, mais c'est peut-être Dieu qui t'appelle à l'accomplir. Quatrième implication, c'est que ce qu'on veut rechercher absolument, ce qu'on veut rechercher, c'est le fruit de l'esprit. C'est pas la technique, la forme, ce qu'on veut, c'est pas le don qu'on veut rechercher. Ce qu'on recherche, c'est vraiment le fruit de l'esprit, la maturité. Et Galates 5, 22 le dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Chaque chrétien est appelé à rechercher tout le don de l'esprit. C'est le caractère du chrétien, mais les chrétiens ne sont pas appelés à rechercher tous les dons du Saint-Esprit. Et ça, il faut réaliser que Dieu donne souverainement à qui il veut les dons spirituels. Alors, les fruits parlent de ce qu'on est, alors que les dons mettent l'accent sur ce qu'on fait. Et c'est vraiment différent. Alors, voilà les implications des dons de l'esprit. Aucun chrétien ne peut se permettre de chômage dans l'Église, car nous avons tous un don de l'esprit. On sait que cela va causer des tensions par moments, mais nous voulons agir avec humilité et respect, et honorer les uns les autres, sachant que nous avons tous des dons. Et ce que nous cherchons ultimement, c'est le fruit de l'Esprit. Alors, comment se servir des dons de l'Esprit? Éphésiens 4, 15 le dit. C'est en professant la vérité dans l'amour. Nous croit-on à tous égards en celui qui est le chef, qui est Christ. Comment on exerce les dons? C'est dans l'amour. Paul ne parle jamais des dons de l'Esprit sans parler d'amour. Jamais. Alors, comment avoir cet amour? Bien, Paul donne un passage mystérieux. Ça a fait couler tellement d'encre. C'est le verset 10, 7 à 10. Mais compris dans son contexte, je trouve que c'est quel modèle de l'amour? Comment exercer nos dons spirituels? Avec amour. Comment avoir cet amour-là? Verset 7 dit ceci, Éphésiens 4, 7 dit ceci. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a amené des captifs. Et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Avant d'expliquer ce passage, moi j'inviterai les frères qui ont été assignés ce matin à distribuer des éléments de la Sainte-Cène, parce que je trouve que ce passage ne peut pas être plus approprié pour préparer nos cœurs pour la Sainte-Cène. Alors, j'inviterai les frères à venir distribuer pendant qu'on va expliquer les éléments. On va expliquer ici ce passage. Venez distribuer les éléments. Évidemment, comme on le dit chaque fois, seuls ceux qui ont connu l'expérience, ont fait l'expérience de la nouvelle naissance, sont invités à prendre part à la Sainte-Cène. Et ceux qui sont baptisés par immersion, si vous n'êtes pas encore rendu là, c'est correct. Ça va venir, votre jour va venir. Il n'y a pas de jugement dans ça. C'est vous qui connaissez votre cœur, où est-ce que vous êtes rendu. Vous êtes en cheminement et c'est correct. On a tous passé par là. Donc, j'inviterai vous les frères à distribuer, si vous voulez bien, les éléments. Et je vais expliquer ce passage. Maintenant, Paul, ici, dans le Éphésiens, chapitre 4, versets 7 à 10, va citer, en fait, un psaume, le psaume 68. Dans l'Antiquité, lorsqu'il y avait un roi dans un pays, et qu'un autre roi, un roi ennemi, s'en venait pour prendre le pays, pour vaincre le roi, et prendre possession du pays, et faire du peuple des esclaves, le roi du pays partait en guerre le retrouver dans les champs de bataille. Et puis, s'il gagnait, s'il libérait le peuple, s'il apportait la délivrance au peuple et revenait gagnant, victorieux dans son pays, ce qu'il faisait, il remontait sur son trône et prenait le butin, les richesses qu'il avait prises dans le territoire ennemi, et faisait des dons aux hommes. Il les distribuait à tous les gens de la société, enrichissant évidemment chaque citoyen avec la richesse qui a été prise, conquise à l'extérieur dans le territoire ennemi. David, qui a composé ce psaume, inspiré du Saint-Esprit, ce psaume 68 se rappelle d'un événement. C'est David qui revient avec l'Arche de l'Alliance et va ramener dans son pays l'Arche de l'Alliance et va apporter, qui représente la présence de Dieu, va rapporter l'Arche dans le lieu très saint. Et l'Arche représente Dieu, donc Dieu est retourné comme roi sur son pays, en Israël. Dans le début du psaume 68, David raconte que Dieu, il va commencer avec la délivrance en Égypte de son peuple, qu'il est allé en Égypte libérer son peuple, les amener dans le désert, les libérer de l'esclavage pour les ramener finalement dans la terre promise. Et il a fait les dons aux hommes. Il donne la terre promise, le lait et le miel dans le pays, qui est une vraie enrichissant à tout le monde, tout son peuple. Maintenant, lorsque Paul lit le psaume 68, il lit l'Ancien Testament comme chacun d'entre nous devrait le faire en voyant Jésus-Christ au centre. une approche qu'on appelle christocentrique. Paul lit le psaume 68 et ne peut faire autrement que d'y voir Jésus-Christ. Il voit Jésus dans le psaume. Merci. Il voit Jésus. Et ce qu'il est en train de dire, c'est que Dieu n'avait pas fini de délivrer son peuple. Et l'image, évidemment, c'est Jésus-Christ qui est descendu du ciel. Quand on dit « il est descendu », c'est qu'il a quitté la gloire au ciel. Il a pris la forme d'un homme. Il est venu ici, il a livré le plus grand combat qui ne s'est jamais livré dans l'histoire de l'homme, de l'être humain, à la croix, pour nous libérer de nos péchés, nous sauver. Il est descendu, il s'est humilié, il a pris la forme d'un homme, il a été persécuté, rejeté, il est mort sur la croix. Il est descendu. Mais il est ressuscité le troisième jour. Et il est retourné au ciel, il est remonté, le roi des rois est remonté au ciel. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait des dons aux hommes en distribuant le Saint-Esprit sur chaque croyant, en les délivrant de l'esclavage, en les sauvant, leur donnant la vie éternelle. C'est correct? Je vais arriver. Et c'est ce que Paul est en train d'expliquer ici dans ce magnifique passage, un chef-d'œuvre, lorsqu'il est en train de dire justement dans Éphésiens, voici ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Donc nous allons prendre la Sainte-Cène ce matin en pensant à ça. Jésus est descendu, a pris notre place à la croix, et il est remonté et il a fait des dons aux hommes. Laissez-moi vous le lire à nouveau. À chacun de nous, la grâce est donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns, et là il décrit les dons qu'il a faits, les dons de l'Esprit. Et nous voulons prendre la Sainte-Cène ce matin en mémoire de ce que Jésus a fait. Alors on va prendre juste un temps, si vous voulez bien, de recueillement, et remettre notre vie au Seigneur, et peut-être qu'il y a des choses que Dieu vous montre et que vous avez besoin des décisions à prendre ce matin, et surtout à la lumière de ce qu'on a vu ce matin, peut-être que tu n'as pas encore donné ton nom pour servir au sein de l'Église. Et peut-être c'est le temps d'aller donner ton nom au Kias ce matin. Dire, moi je veux m'impliquer. Je réalise comment c'est important et Dieu m'a préparé pour ça, je veux m'impliquer ici. Parce que Jésus est descendu et il est remonté et il a fait des dons. Prenons un moment pour prier. Te remercier ce matin pour ton œuvre. Te remercier pour l'Église. Tu t'es acquise à un grand prix. Nous sommes émerveillés devant l'Église. Même les anges du ciel ont été surpris ils ont vu encore davantage l'infinie grandeur de ta sagesse à la naissance de l'Église. Nous sommes émerveillés, Seigneur, devant ton œuvre. Et nous sommes heureux de pouvoir faire partie de cette œuvre, être membre de ton corps, membre de ta famille, adopté, justifié. Seigneur, nos cœurs sont comblés de ton amour. Lorsque tu es descendu du ciel, tu as quitté la gloire qui te revenait. Seigneur, nous voulons te remercier pour ton sacrifice. Tu es venu nous chercher, nous qui étions esclaves dans notre péché, pour nous libérer, nous ramener dans ton royaume. Tu nous as enrichis par la présence du Saint-Esprit dans nos cœurs, en nous donnant une nouvelle vie. Seigneur, nos cœurs sont contents, bénis, et nous voulons te dire merci. Nous prenons, Seigneur, ce pain et cette coupe en mémoire de ce que tu es descendu et tu es remonté pour nous racheter. Amen. Mangeons.